La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant. Vous avez dit existentialisme ? Même si le monde n'a pas besoin de moi, j'ai la liberté d'être l'homme décisif ou la femme décisive de mon existence, car personne ne peut l'être à ma place. Par Jean-Christophe Blondel, professeur de philosophie. Il y a des questions qu'il ne faut peut-être pas se poser tous les jours, tant on devine que, parfois, les circonstances nous pousseraient à leur donner des réponses qui pourraient se traduire en gestes définitifs. Ainsi, il se peut qu'un matin, devant le miroir de la salle de bain, le cheveu en bataille et l'horloge montrant déjà du doigt notre retard, nous nous demandions « Le monde a-t-il besoin de moi ?» Comme la salle de bain n'est pas exactement le meilleur endroit pour traiter correctement ce genre de questions, imaginons que le sujet soit donné au baccalauréat. D'ailleurs, il le fut. Et dégageons rapidement le problème qu'il pose. Si le besoin est un manque qu'il est nécessaire de combler, alors, si le monde a besoin de moi, c'est que je suis nécessaire à ce monde. C'est en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ma vie a un sens, que le monde m'a réservé une place que j'ai dès lors à tenir. La mauvaise, c'est que je ne suis pas libre, puisque le monde attend de moi quelque chose de particulier que je peux certes refuser, mais alors je désobéirai au monde. À l'opposé, si j'affirme que le monde n'a pas besoin de moi, alors c'est de nouveau une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis totalement libre, puisque rien ni personne n'attend quoi que ce soit de moi. La mauvaise, c'est que ma vie n'a, en elle-même, aucun sens. Quiconque a mis le doigt dans l'engrenage de ce problème a mis en même temps le premier pied sur ce paysage de la pensée qu'est l'existentialisme, puisque, du XVIIe siècle à aujourd'hui, c'est un courant qui s'est principalement focalisé sur cette question. Que reste-t-il de soi-même si on se rend compte qu'on n'est porté par aucune nécessité particulière ? Que faire de nos existences ? À quoi sommes-nous tenus si rien dans l'univers n'attend quoi que ce soit de nous ? L'existentialisme ne serait donc pas seulement cette mode provisoire que des Parisiens branchés auraient adoptée dans l'immédiate après-guerre. Il y aurait dans ce courant de pensée de quoi alimenter nos réflexions les plus essentielles, puisque ce sont celles qui touchent au caractère éphémère et un peu vain de nos existences. Mais pour le comprendre, il va falloir examiner quelles sont les sources exactes d'une telle pensée, tant dans l'histoire qu'en soi-même. On pourra constater que, contrairement à l'image un peu surannée qu'on peut avoir de ce mouvement, l'existentialisme a encore une certaine pertinence pour aborder des problèmes tout à fait contemporains. Et si nous étions là pour rien ? Inventons une émission de télé-réalité un peu plus radicale que celle qu'on nous propose jusqu'à maintenant. Imaginons un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans avoir aucun moyen d'en sortir. C'est Blaise Pascal qui, dans ses pensées, a cette idée facétieuse consistant à faire se réveiller un homme dans un univers qui lui est absolument étranger, pour observer comment il va se comporter face à cette situation nouvelle. Se mettant à sa place, Pascal dépeint cette situation imaginaire, désormais à la première personne. Je vois d'autres personnes auprès de moi de semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi, et ils me disent que non. Puis, il décrit la façon dont ceux qui partagent son sort se noient dans diverses activités pour ne surtout pas avoir le temps de se poser la seule question qui pourtant s'impose : qu'est-ce qu'on fait là ?
L'éléphant. Et Sirius Audio.
On tient là l'élément fondamental de la pensée existentialiste, qu'on retrouve dans le premier roman de Jean-Paul Sartre, La Nausée, au moment où le narrateur, observant les racines d'un marronnier, se rend compte qu'elles semblent n'avoir aucune raison d'être. Certes, l'arbre a besoin de racines, elles sont nécessaires, mais est-il nécessaire qu'elles aient cette forme précise, que leur texture soit cette texture précise ? Non. Elles pourraient ne pas être ce qu'elles sont. En philosophie, une telle propriété porte un nom qui s'oppose au mot « nécessité ». On appelle cela « contingence ». Est contingent ce qui peut tout aussi bien être ou ne pas être, être tel qu'il est ou bien autrement. Roquentin, personnage central de la nausée, observant la contingence de ses racines, saisit précisément ce qui, de façon générale, provoque en lui cette nausée latente. Sa vie est elle aussi livrée à la contingence. Être ou ne pas être, telle est la question à laquelle il n'y a nulle réponse, puisque rien ne peut faire que son existence soit nécessaire.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Reprenons la question que nous posions. Le monde a-t-il besoin de moi ? Son présupposé, c'est que la vie d'un individu a d'autant plus de valeur qu'elle est nécessaire, puisque son éventuelle contingence ferait de lui un être superflu dont le monde pourrait tout aussi bien se passer. Si on les observe bien, la plupart des débats sociétaux contemporains ne posent que cette question. Dans quelle mesure peut-on considérer qu'il soit nécessaire qu'un être humain fasse ceci ou cela au cours de son passage sur Terre ? Peut-on considérer au contraire qu'en fait, rien ne détermine absolument qui que ce soit à faire quoi que ce soit et que, dès lors, Nous ne faisons ce que nous faisons que parce que nous le voulons, librement. À un point tel qu'on ne peut finalement pas vraiment se plaindre, puisqu'en fait, rien ni personne ne nous a jamais rien demandé. Or, on se porte peut-être mieux en étant convaincu qu'on a fait ce qu'on a fait parce que des voix venant du ciel, du tréfond, de son être ou de la nature, une nécessité, en somme, nous ont soufflé de le faire. Jean-Paul Sartre.
Certains rapports extrêmes avec la mort, le besoin, l'amour, la famille, dans un même moment de danger, qui fait que, à ce moment-là, on touche à la vraie réalité humaine, c'est-à-dire à l'ensemble des rapports vécus à tous les termes limites de notre condition.
Une philosophie qui met hors de soi. Si on a compris ce qui précède, alors on a aussi compris la majeure partie des thèses et des formules de Sartre dont l'existentialisme est un humanisme. Le cœur de l'ouvrage tient en un énoncé lapidaire. L'existence précède l'essence. Avant tout, précisons ceci. Cette formule ne concerne que l'être humain, et pour en être convaincu, il faut de nouveau remonter en arrière, jusqu'aux racines latines du mot « exister ». En effet, « exister » est un mot construit sur un verbe latin, « sistere », qu'on pourrait traduire par « se tenir », précédé du suffixe « ex », qui désigne « l'en dehors ». C'est ainsi que deux auteurs majeurs du courant existentialiste, Søren Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, et Martin Heidegger, immense et problématique philosophe allemand du XXe siècle, concevront l'existence. Exister, ce serait se tenir hors de soi-même. De son côté, l'essence est un concept qui peut intimider. Pourtant, si on se dit que l'essence, c'est tout simplement ce qui, dans un objet ou un concept, lui est essentiel, ce en quoi il ne serait plus ce qu'il est, ce qui en somme permet de le définir, alors la formule de Sartre commence à se clarifier. Dire que, pour l'homme, l'existence précède l'essence, c'est affirmer que ce qui permet de le définir ne se trouve pas dans lui, ne constitue pas un petit secret intime qui permettrait, si on y accédait, de savoir qui il est. La définition, l'essence, de l'homme, se situe au-delà de ce qu'il est. Et être un homme consiste avant tout à ne jamais cesser de devenir celui qu'on n'est pas encore. On commence à comprendre alors pourquoi l'angoisse est un concept qui tient une telle place pour l'existentialisme. Car finalement, chez nos existentialistes, le fait que nous soyons voués à la mort, que l'existence soit, pour ainsi dire, envahie par le néant, la nécessité de devoir porter seul le fardeau de cette existence sans pouvoir en transmettre la responsabilité, voilà ce qui constitue le terreau de l'angoisse, dans laquelle nous sombrons dès que l'ennui nous tenaille. Ce que Pascal appelle le divertissement n'est dès lors que l'ensemble des occupations dans lesquelles nous nous plongeons afin de ne pas tomber dans l'ennui, puisque celui-ci est, dans le fond, une expérience du néant, de la vacuité d'une existence qui ne trouve ni en elle, ni dans le monde, une justification, une raison d'être. Et Sartre a montré à quel point notre personnage peut être un divertissement face auquel Candy Crush n'est rien.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Liberté inconditionnelle. La contrepartie de cette solitude, c'est la liberté. En effet, comme on le disait en introduction, si le monde n'attend rien de moi, alors je suis absolument libre, tellement libre qu'à vrai dire, ça en devient presque inquiétant. Sartre, cernant bien ce paradoxe, en fera une formule connue. L'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs, cependant libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. On touche sans doute là à l'un des mérites les plus intéressants de l'existentialisme, avoir discerné qu'il y a quelque chose dans la liberté que nous ne désirons pas tant que ça. Parfois, on peut avoir l'impression d'être tombé dans une impasse et que l'horizon des possibilités qui s'offrent à soi est extrêmement rétréci. On peut même se voir soi-même comme le mur qui bouche les perspectives, comme si on œuvrait en douce à son propre malheur. Il y a dans le traité du désespoir de Kierkegaard des pages étonnantes méditant la nature réelle du désespoir frappant un homme qui aurait, par exemple, désiré être César et qui constate qu'il n'est malheureusement que lui-même. Ce n'est donc pas de n'être pas devenu César qu'au fond il désespère, mais de ce moi qui ne l'est pas devenu. Ce qu'il ne supporte point, c'est de ne pouvoir pas se défaire de son moi. Face au désespoir de n'être que soi, on pourrait être tenté de plaider non coupable en prétextant qu'il y a mille causes qui ont provoqué mille effets, lesquels ont pour résultat que finalement on est devenu ce personnage avec lequel on ne parvient cependant pas à coïncider. Pour l'existentialisme, et pour Sartre en particulier, ces mille et une raisons expliquant qu'on a dû devenir ce qu'on est sont autant d'expressions de notre mauvaise foi. Certes, chacun baigne dans un monde où jouent des déterminismes biologiques, sociaux, économiques, historiques. Et ces mécanismes peuvent expliquer la situation dans laquelle chacun se trouve à tel moment dans son existence. Mais pour l'existentialisme, aucun de ces déterminismes ne peut abolir la volonté. Par conséquent, chacun demeure libre, quoi qu'il arrive, de faire ce qu'il veut. Non pas que tout et n'importe quoi soit possible, mais plutôt que dans chaque situation, il y a un horizon de possibilités qui s'ouvre devant soi. Ainsi, être handicapé ne consiste pas à voir sa liberté abolie. Il faudrait plutôt dire que c'est être dans une situation qui ouvre la possibilité de déployer sa liberté dans des espaces qui, en fait, sont inaccessibles aux valides. Être champion paralympique, par exemple. En somme, si chacun se trouve dans telle ou telle situation qui comporte telle ou telle contrainte, aucune situation, en revanche, ne peut abolir ce qui constitue notre condition, la liberté. Ceux qui font preuve de volonté sont ceux qui, justement, ne se laissent pas dominer par ce que les autres considèrent comme des contraintes. Dès lors, la fameuse phrase de Sartre affirmant dans La République du silence que « jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande » prend du sens. L'occupation est un déterminisme puissant, pas suffisamment cependant pour abolir la volonté. On ne s'y plie que si on le veut bien. « Je suis ce que je ne suis pas, et je ne suis pas ce que je suis. » Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, 1943. Certes, on est bien, à la naissance, un homme ou une femme. Certes, on vit dans tel ou tel cadre social, avec tel ou tel moyen, telle ou telle chance, ou tel handicap. Mais ce qui importe, justement, c'est de ne jamais céder à la tentation de se laisser définir par des éléments de soi dont on n'est pas l'auteur. Être né femme ne détermine pas qui on est, puisque ce qui importe, c'est de savoir quelle femme on a fait de soi. Kierkegaard aide à comprendre ceci qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle dont on est l'auteur. Chacun peut être l'homme décisif de sa propre existence, pour la simple raison que personne d'autre ne peut l'être à sa place. Et l'étant pour soi-même, on l'est aussi pour l'humanité tout entière, puisqu'on définit tout homme comme cet être qui est à la source de lui-même. Kierkegaard, dans sa volonté de refonder le protestantisme, avait deviné qu'est prophète celui qui a l'audace de l'être, que chacun est prophète, à la condition de laisser s'exprimer ce qui en soi réclame la parole. Aujourd'hui, un penseur comme Abdennour Bidar donne fortement l'impression d'être à l'islam ce que Kierkegaard a été au protestantisme. Un homme qui ne se laisse pas définir par les déterminismes liés à la religion qui l'a nourri, et qui est l'auteur du musulman, de l'homme qu'il est. Un homme qui est, plus que ce dont le monde a besoin, un cadeau. Quand, dans l'islam sans soumission, il écrit « Dieu est là pour nous aider à libérer cet être profond, à devenir nous-mêmes », c'est de façon existentialiste qu'il parle de la religion. Mais mieux encore, c'est aussi de façon existentialiste qu'il reprend à son propre compte l'existentialisme lui-même, réintroduisant Dieu dans un espace de pensée que l'athéisme de Sartre lui avait fermé. Parce que la pensée elle-même est appelée à exister. Il est bon, pour qu'elle irrigue les hommes, qu'une pensée puisse être condensée en des énoncés qui seront à la philosophie ce que les punchlines sont au rap, des formules cinglantes qui font leur nid dans l'esprit pour y être méditées. On a vu que l'existentialisme n'est pas avare en formulations de ce genre. On conclura donc sur une toute dernière denrée pour l'esprit qui nous est servie sur un plateau par Sartre dans son Saint-Genet comédien et martyr. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.